Tous. Ça me fait très 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 plaisir d'être ici. Vraiment merci de votre accueil. Merci beaucoup d'être là, d'être ma famille. Et je me réjouis vraiment en tout cas de voir ce que les jeunes font, ce que les jeunes vivent. Parce que c'est une génération que j'ai vraiment à cœur et je me dis que le Seigneur a énormément de choses à leur faire vivre. Donc voilà, je me réjouis d'entendre ça. Et j'ai d'ailleurs posé une question à deux des jeunes. Je vais vous la poser. C'est un petit questionnaire. Qui pense que dans la Bible, il y a marqué « Soyez toujours joyeux » ? Ne regardez pas le pasteur. Ok, c'est marqué dans la Bible « Soyez toujours joyeux ». Où est-ce que c'est marqué ? Merci. Bravo. Alors, c'est marqué dans 2 Thessaloniciens 1. C'est peut-être marqué ailleurs. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais ça en fait partie. Donc, merci de m'accueillir. J'ai envie de partager avec vous les deux dernières années, finalement, puisque c'est deux années où je n'ai pas été présente. Et finalement, à travers ce témoignage, c'était aussi surtout raconter et montrer comment j'ai vécu l'amour de Dieu, comment j'ai vécu sa grâce et finalement sa gloire. Et beaucoup d'étapes et beaucoup de moments où j'ai vraiment vu sa gloire être manifestée dans ma vie. Et finalement, c'est évidemment, comme c'est un témoignage, c'est pas du tout un schéma ou des choses à retranscrire ou à. C'est pas un schéma, mais c'est voilà une expérience personnelle parce que je crois vraiment que le Seigneur utilise des moyens très différents avec chacun pour parfois exprimer la même chose. Et voilà, avec moi, il a vécu, il a fait certaines choses précises qui correspondaient à ma vie. En tout cas, voilà, disons pour vous donner un peu la fin ou la conclusion avant le départ, c'est que finalement, quand j'écrivais un petit peu tout ce témoignage, je voyais que le Seigneur m'a emmené dans ces deux années à revenir en fait à l'essentiel, que je pense avoir perdu un moment ou à pas avoir vraiment su saisir. C'est que finalement, ce à quoi il va nous amener et dans le réveil qu'il est en train d'annoncer en ce moment. C'est qu'on va devoir changer, on a déjà entendu beaucoup d'assemblées d'église, c'est qu'on va devoir changer nos schémas classiques et nos façons de faire. À un moment, il va y avoir ce réveil. Si on ne se laisse pas transformer et renouveler dans notre intelligence, si on ne se laisse pas renouveler par qui il est, on va être limité à un moment et on ne va pas pouvoir recevoir toute l'amplitude de son amour et de sa grâce. À cause de ça, et c'est pas du tout pour vous faire peur, mais c'est vraiment dire que j'ai entendu ça récemment, c'est que la seule chose qui est constante, c'est le changement. Et voilà, dire ça sans en dire long. Donc finalement, il y a 2 ans, ça a vraiment été l'année qui vient de passer. J'étais en Australie effectivement pour faire mon master 1 d'architecture. Actuellement, je suis en master 2, toujours à Strasbourg, enfin de retour à Strasbourg. Je finis 10 années d'études qui ont été chargées et en même temps qui ont vraiment été une formation évidente et très riche. Et donc l'année avant de partir en Australie, ça a vraiment été un temps d'être préparée et équipée. Et c'était une année qui était aussi bénie et qui a suivi une autre année qui était très 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 difficile. Où je me suis retrouvée à être vraiment dans l'épuisement, à être effectivement aussi à la limite du burn-out. Et je me rends compte de pourquoi. C'est parce que j'étais dans le faire et pas dans le être. Et que ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'avais ce projet, ce rêve. Il y avait une parole qui avait été prononcée pour moi sur le fait que je devais partir, ou que j'étais appelée à être en Australie cette année-là. En fait, non, je dis cette année-là, mais non, c'était un appel pour l'Australie et j'avais pas le quand, mais j'avais le où, j'avais le comment, puisque voilà, c'était à travers l'école d'architecture. Et moi, j'ai cru que le quand allait de fait être l'année qui suivait. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que, entendant l'appel qu'il y avait sur ma vie, je me suis dit, OK, il y a un appel, donc moi, je dois travailler pour cet appel. Et je dois tout faire pour, et je dois, je dois m'épuiser aussi, puisque finalement, le tout faire pour, c'était passer un test d'anglais qui est très difficile, et je ne maîtrisais pas très bien l'anglais. Et à côté de ça, j'avais aussi plusieurs jobs à côté de mes études, donc finalement, ça s'additionnait. Et voilà, je suis arrivée à un état d'épuisement. Financièrement, c'était difficile parce que c'est un test qui coûte cher. Et j'ai vécu une situation où les portes se sont fermées petit à petit, et beaucoup d'entre vous étaient là et ont suivi ça. Et je suis arrivée vraiment à un moment en juin à ce que la porte se ferme et à ne pas comprendre du tout pourquoi. J'étais forcément en colère contre Dieu. Et très vite, je me suis dit, c'est Dieu est bon, c'est une réalité, c'est une vérité, donc moi, je dois être mauvaise. Si le résultat est mauvais, c'est que je ne dois pas être à la hauteur. Et j'ai vécu du coup un effondrement dans ma foi, littéralement, de me dire, est-ce que je suis une mauvaise chrétienne ? Et j'ai vécu ça comme un échec. Alors, c'est très intéressant de voir. Après, on reverra à la fin, qu'est-ce que c'est un échec ? Qu'est-ce qu'on appelle un échec ? Et ce qui s'est passé, c'est que l'été qui a suivi, donc à peu près un an tout pile avant le départ, j'ai vraiment vécu la grâce de Dieu, parce que dans cet état-là, d'être vraiment au plus bas, j'ai vécu un temps où il m'a relevé, où il m'a vraiment édifié. Et en fait, j'avais été depuis quelques années participante à un camp qui s'appelle le camp Réveiller les héros, dont certains ont déjà été. Et jusque-là, j'avais été participante. Et comme par hasard, cette année, j'ai été appelée comme leader. Et je me suis dit, mais Seigneur, tu m'appelles comme leader juste l'année où je suis au plus bas de ma foi, donc ça ne va pas le faire. Et je me suis dit, à la limite, allons avec l'obéissance, on va y aller. Et on verra s'il se passe quoi que ce soit, c'est bien que c'est le Seigneur qui parle à travers moi et que ça ne vient pas de moi. Donc bon, au moins, voilà, on y va comme ça. Et finalement, en allant avec cette obéissance, j'ai expérimenté vraiment une puissance et une gloire que je n'avais jamais expérimentée dans des camps comme ça, et que le Seigneur parle à travers moi de manière nouvelle, et que moi-même, je reçoive beaucoup de choses. Et c'était vraiment édifiant. Et il a continué ce travail d'édification. J'ai pu passer un temps avec des amis chrétiens dans le Sud, un temps aussi aux États-Unis. Vraiment, j'ai reçu des choses précieuses pour ma vie et un appel. Et cet appel, justement, que j'ai reçu là-bas, c'était tout d'un coup un nouveau flot de directives, on va dire, ou de directions pour le futur. Et je l'ai pris déjà comme un encouragement. Et en même temps, je me suis quand même à moitié chargée de... Waouh, je dois faire ça et je dois aller là et ça va être beaucoup, il faut que je me mette au boulot tout de suite. Et finalement, c'est un peu la deuxième étape. C'est que à la fin de ce séjour aux États-Unis, j'ai pu, donc ça c'était en septembre il y a 2 ans, j'ai pu repasser le test d'anglais qui s'appelle le TOEFL. J'ai pu le repasser sur place dans des super conditions et j'ai vraiment expérimenté aussi quelque chose de fort, c'est que ce test, évidemment, après l'avoir passé 2 fois, avoir eu un échec, ça me coûtait très cher, j'avais pas envie du tout de le passer, c'est logique. Et ce que j'ai vécu, c'est tout d'un coup une envie de le passer, donc quelque chose de vraiment surnaturel. J'étais sous la douche et tout d'un coup je me suis dit, je passerais bien le test. Alors, c'est un sentiment très bizarre. Donc bon, je suis partie faire ce test et ça a vraiment été une bénédiction puisque en plus c'était moins cher de le passer aux États-Unis qu'en France et c'était dans la ville où j'étais à ce moment-là. Donc voilà, c'était des conditions plus faciles. De retour à Strasbourg, j'attends les résultats et là je sens dans un temps de prière perso où le Seigneur me dit... le résultat que tu attends, c'est pas forcément celui que tu auras. Et là, bon, je me dis, Seigneur, j'imagine que ce sera pas le score dont j'ai besoin, qui était de 90. Et effectivement, le lendemain, je reçois les résultats et je reçois 83. Je dis, mais Seigneur, il manque 7 points. Et 7 points, c'est ton chiffre, donc tu te moques de moi. Et je trouvais que c'était de l'ironie. En même temps, je savais que Dieu, forcément, il ne va pas être ironique avec nous sur ce genre de choses. Et il m'a demandé simplement de lâcher prise. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as dit, tu m'envoies là-bas, je me prépare autant que je peux. Et en même temps, j'avais déjà plus ou moins lâché prise parce que j'avais vu que j'étais tombée vraiment au plus bas, on va dire, dans ma foi et dans mon espérance, et qui m'avait relevée. Et je me dis, bon, ben, c'est ton projet pour ma vie. Maintenant, je te laisse. Et je vais où tu veux et quand tu veux. Et si ce n'est pas l'Australie, tant pis. Je pouvais à ce moment-là peut-être partir en Angleterre aussi. Donc voilà. Et ce qui s'est passé finalement, c'est que j'ai discuté avec un ami à ce moment-là qui me dit, mais pourquoi est-ce que tu n'envoies pas simplement un mail à l'université de Brisbane, donc c'est l'université dans laquelle j'étais supposée aller, pour leur demander s'ils te prennent avec ce niveau. Je fais, oui, c'est bon, pourquoi pas. Et j'envoie un mail effectivement, et à ma grande surprise, le lendemain, je reçois une réponse de l'université de Brisbane qui m'accepte sans condition. C'est-à-dire que, ils m'ont envoyé une admission définitive. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont dit qu'ils me prenaient avec ce score d'anglais qui était inférieur à ce qu'ils demandaient. Ils m'ont pris sans état préalable du jury, dans mon université, ni dans la leur. Et ils m'ont accepté sans le délai officiel de candidature, enfin hors délai. Et effectivement, donc, j'ai passé de toutes les étapes d'un coup. Et ça, c'est vraiment la gloire de Dieu, parce que ça n'arrive pas, en fait, ça n'arrive jamais, surtout avec une université comme ça. Donc voilà, gloire à Dieu. Et ce qui était super finalement, c'est que vraiment j'ai vécu de la joie, vous pouvez imaginer, j'étais heureuse. Et en même temps, là où j'étais le plus heureuse, c'est que c'est une des fois où le Seigneur m'a vraiment parlé clairement. Une des fois où il me vraiment parle plus clairement. Et ce que j'ai senti dans mon cœur, c'est qu'il me disait, c'est 7 points qui te manquaient. C'est effectivement le chiffre parfait de ma grâce pour toi, pour que tu comprennes que c'est moi qui t'envoie là-bas et que tu n'as pas à t'épuiser pour entrer dans mes plans. Et voilà, c'était effectivement très fort. Et c'est un encouragement que je vais donner surtout aux jeunes qui vivent ces choses de préparation, d'entrer dans leur destinée. C'est de se dire qu'à un moment, quand il y a un appel, on n'a pas à s'épuiser pour entrer dans son appel. Voilà. Et merci. Merci. Gloire à Dieu. Voilà, c'est. Alors, effectivement, quand je notais ça, je disais, mais Seigneur, est-ce qu'il y a une clé dans ta parole pour. Qui nous rappelle ça, en fait, qui nous dit qu'il n'y a pas à s'épuiser pour entrer dans tes plans? Parce qu'il faut que vous gardiez ça aussi, et surtout les jeunes, enfin chacun d'ailleurs, mais. Et effectivement, dans Éphésiens 2, 10. On peut lire ça ensemble. Le passage où Dieu nous parle, le passage où la Bible nous parle de la miséricorde de Dieu et de son amour, et que même quand on était mort par nos offenses, la vie nous a été rendue par Christ. Et il est dit, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ça me rappelle aussi l'histoire du corps, l'histoire de la communion, qui est super, vraiment super importante. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça, on l'a chanté tout à l'heure, quand même. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, ça vous le connaissez par cœur, afin que nous les pratiquions. Et dans le mot pratiquer, c'est important d'aller rechercher dans ce mot pratiquer. Qu'est-ce que ça signifie? Que finalement, quand on nous dit pratiquer une langue, pratiquer un sport, on ne doit pas créer le sport, on ne doit pas créer la langue, on la pratique, donc elle existe, elle est préparée d'avance. Et quand on est appelé à y entrer, c'est Jésus qui ouvre la porte, qui donne le temps, qui prépare la voie à l'avance, etc. Et on doit y rentrer et le pratiquer. Et ça, c'est ce que j'appelle le repos. On le connaît aussi, on en a beaucoup parlé. Être dans son repos, c'est pas rester sur son lit et attendre. C'est être actif, mais vivre les choses avec la paix du Seigneur. Et c'est vraiment ce que j'ai expérimenté à ce moment-là. Et ce que j'ai reçu, finalement, c'était de se dire que je n'avais pas donc à travailler à l'accomplissement des projets de Dieu pour moi, ou chercher tous les moyens d'y entrer, parce que comme si tu devais faire une chasse, une fouille, on va dire, une chasse au trésor. Et que finalement, il y a aussi la question des promesses, c'est que, et ça c'est dit dans Romains 4, 21, ce qu'il a promis, il est aussi puissant pour l'accomplir. Et qu'à un moment, c'est pas, il n'est pas dit que Dieu nous a promis des choses et que nous, peut-être qu'on sera assez puissants pour accomplir les choses qu'il nous a promis. C'est lui qui l'accomplit, a priori, c'est marqué dans la Bible. Donc voilà. Et après, il y a la question qui se pose, qu'est-ce que moi je dois faire ? Je me suis dit, mais Seigneur, je suis de nature plutôt active et à chercher à faire des choses, etc. Donc, qu'est-ce que je fais de cette nature-là que tu m'as donnée ? Et est-ce qu'à un moment, je dois juste être dans le passif et je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Et à ce moment-là, c'était la fin de l'année où la bénédiction que j'ai vécue, c'était aussi d'être admise très tôt dans cette année où j'étais à Strasbourg, mais où finalement, c'était vraiment une étape de transition, une année de transition. Et c'est une année où, effectivement, j'ai aussi été appelée, j'avais à cœur de rejoindre l'Assemblée Agapé, où je suis maintenant, à Strasbourg, et où il y a eu aussi énormément de bénédictions dont j'avais besoin à ce moment-là. Et avant que je parte dans cet envoi, alors je me souviens qu'ici, voilà, où j'étais passée, vous avez prié pour moi, vous m'avez envoyé, et là-bas aussi. Et ce que j'avais reçu, c'est dans cette question aussi au Seigneur, de dire qu'est-ce que je dois faire, et de me dire, mais ok, Seigneur, ta grâce, elle est là, elle existe, je suis graciée pour tout, mais il y a toujours ce petit côté, je veux en faire plus pour pas racheter mon salut parce que je l'ai reçu, mais un peu le mériter, un peu plus. Et puis me dire, me dire, bah, si je peux au moins contribuer à quelque chose de bien, je me sentirais moins coupable. Et la réponse du Seigneur, c'est quelqu'un qui a reçu ça dans l'Assemblée Agapé. C'est dans Michée 5, 6. Et ça, c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde. Donc on va lire ensemble. Donc dans Michée 6, versets 6 à 8, il est dit: avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? Et la réponse du Seigneur, c'est de dire: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et à l'écoute de cette parole à l'époque, disons, c'était encourageant de me dire qu'il y a des choses précises aussi, que c'est pas juste vaguement, recevez ma grâce, et puis... peu importe les sentiments que vous avez derrière, ou peu importe ce que vous faites, c'est qu'on est aussi appelé à vivre, à être, à faire des choses concrètes, ou à ne pas faire certaines choses. Et là, en préparant finalement en reprenant ce passage, c'est comme si le Seigneur me rechargeait avec une nouvelle dose de compréhension de ce passage, et je me disais, mais Seigneur, oui, j'ai l'impression comme si ce passage et ces trois choses, comme s'il manquait quelque chose. Et en regardant de plus près, j'ai dit, bon, mais qu'est-ce que c'est pratiquer la justice ? Et le Seigneur me disait, mais pour pratiquer la justice, il faut déjà savoir qu'on a été justifié. Si on n'est pas justifié, si on ne sait pas qu'on a été justifié, on ne peut pas pratiquer la justice. Et donc savoir qu'on est juste, ok ? Et que finalement, pour pratiquer la justice, pratiquer la justice, qu'est-ce que c'est ? C'est obéir à ce que Dieu dit dans sa parole, et c'est aussi finalement... suivre le Saint-Esprit, être renouvelé dans son intelligence, tout ce qu'on connaît. Et après, il y a la question de la grâce, puisqu'on se dit pratiquer la justice, mais quand on fait des erreurs, il y a la grâce, bon, comment ça marche entre les deux. Et effectivement, il y a ce passage aussi dans Paul sur la question de doit-on surabonder en péché pour que la grâce surabonde. Oui, c'est une question intéressante. Certainement pas. C'est la réponse, c'est ça. Et dans la deuxième réponse, donc aimer la miséricorde, je disais, Seigneur, C'est bizarre que aimer la miséricorde, ça vient après pratiquer la justice, parce que pratiquer la justice, c'est très ok, on y va, on pratique, on est dans la justice, on y va. Et là, tout d'un coup, c'est aimer la miséricorde. Je dis, Seigneur, c'est pas un peu plat, mais c'est un peu plat. Et ce que le Seigneur me disait, c'est pour savoir qu'on a été justifié et donc pratiquer la justice. Aimer la miséricorde, c'est aussi accepter le fait d'avoir été sauvé par grâce. Et de ne rien pouvoir faire, on l'a chanté aussi, pour mériter cela. Et de se dire, je ne peux rien faire de plus. Non, pardon, je ne peux rien faire, je ne peux absolument rien faire pour que Dieu m'aime plus, qu'il ne m'aime déjà. Je ne peux rien faire pour mériter un peu plus mon salut. Même si je l'ai déjà reçu, bon. Voilà, il n'y a rien à faire. C'est cette limite de se dire, ouais, c'est son sacrifice parfait, c'est Jésus qui l'a fait pour nous. Et c'est, comment dire, dans ce passage aussi qui parle de la grâce, doit-on pécher pour que la grâce surabonde, c'est un petit peu cet état de se dire, c'est frustrant finalement en tant qu'humain, dans notre nature humaine, de se dire, on ne peut rien faire pour mériter ce qu'on a reçu. C'est gratuit, on peut rien faire de plus. On peut rien changer, on peut ce qu'on fait finalement, ce qu'on va être, notre relation avec le Seigneur, en tout cas l'amour qu'il a pour nous, on peut rien y changer. Et c'est frustrant, faut s'avouer. Et en même temps, je disais au Seigneur, mais il y a aussi des moyens de pas être frustré de ça et de Et finalement, ce que le Seigneur a fait dans ma vie l'année dernière, surtout, c'est de me dire, regarde à la croix. Bon, je disais, mais la croix, je connais le principe. Bon, je sais, je suis sauvée par grâce. Et on y reviendra. Bon. Après, il y a marqué, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et pour marcher humblement avec son Dieu, il faut déjà marcher. Il faut déjà être en marche, n'est-ce pas ? Donc c'est de dire, on ne va pas être statique et se dire, effectivement, voilà, si l'étape de la miséricorde et de la grâce, à la limite, on est plutôt du genre à l'accepter et à se dire, bon, ben voilà, super. Là, c'est de se dire, il faut marcher. Donc, sur la marche, on va rencontrer des épreuves et des étapes, on va être changé, on va être renouvelé, on va faire des erreurs, on va se dire, ah oui, la grâce, bon. Et voilà, ne pas être statique et dans cet état de se dire, bon, je suis sauvé, advienne que pourra, et... je vais attendre et faire le dos rond jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, et dans cette marche, c'est aussi, on est appelé à marcher avec l'écoute du Saint-Esprit, et c'est super. Voilà, donc ça, c'est ce que je recevais pour ce passage en particulier. Et je me disais avec le recul que c'est, quand je suis partie, j'avais pas vraiment reçu toutes ces pensées, et là, les recevoir maintenant, c'est un peu comme si le Seigneur me disait, voilà ce que je t'ai fait vivre, et je t'avais donné la parole, et maintenant tu comprends le pourquoi, le cheminement. Et le départ, donc voilà, je suis partie en juillet, il y a un an, un peu plus d'un an. Ce qui avait été promis pour moi pour cette année-là, c'était la restauration, une guérison complète. Je ne savais pas de quoi, mais une guérison complète, bon. Et que c'était censé être beaucoup plus qu'une année d'études. Donc effectivement, là, je confirme, ça a été le cas. Et ce qui était finalement pour moi important, c'était de me... Je savais que de nature activiste et voulant faire les choses, je me suis dit, je vais me mettre dans une situation où je dois dépendre du Seigneur à tel point que je n'ai pas le choix, que je ne peux pas faire les choses par moi-même. Et j'avais besoin de me mettre un moment dans cette situation. Et c'était finalement aussi un moyen de me dire, les promesses de Dieu, elles sont là. Il ne va pas me laisser tomber, et j'ai envie de vivre ça, justement, en arrêtant de faire les choses par moi-même. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, puisque le Seigneur est fidèle. Et en tout cas, la toute première semaine, j'ai rencontré des jeunes chrétiens du campus, qui ont un club. Alors, il faut savoir que le campus, c'est... je pense qu'il fait à peu près la taille de Mulhouse, juste le campus. Il fait la taille de Strasbourg, de l'île de Strasbourg. Donc, il fait 2 km en diagonale, comme ça. Et ça donne un peu l'ampleur et l'échelle du reste de la ville. Donc, on marche beaucoup. Et c'est un campus un peu à l'américaine dans son fonctionnement, avec toutes les universités regroupées et vraiment beaucoup d'équipements, beaucoup de choses qui sont faites pour le campus. Et y a une vie vraiment active et c'est assez riche. Et ce que j'ai pu du coup vivre, c'est de me retrouver dans un club chrétien sur le campus qui est rattaché à une église. Et ça, dès la première semaine. Donc, c'est vraiment une grâce. Et finalement, je me suis retrouvée, ça, c'est un clin d'œil du Seigneur. Je me suis retrouvée nez à nez avec une cinquantaine d'Asiatiques et aucun non-Asiatique dans un groupe comme ça. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'était surprenant. Et c'est finalement, bon, j'ai eu la réponse, on va dire, rationnelle, c'est de savoir que. Il y a une très très forte majorité d'étudiants, enfin des internationaux sont essentiellement asiatiques puisque c'est la porte d'à côté. Et après la réponse spirituelle, c'était de savoir que je gardais les reliques d'une mauvaise expérience avec un garçon chinois qui était dans mon école aux Beaux-Arts et qui finalement agissait vraiment vraiment mal. Et j'avais gardé je dirais une petite haine une colère quoi que je connaissais même plus et je voyais le Seigneur me transformer ça aussi en vraiment une bénédiction et c'est des gens que j'appelle maintenant ma famille là-bas. On est j'ai une cinquantaine voire plus d'amis vraiment proches et effectivement ils sont en nombre aussi qui va de pair. Donc c'était intéressant. Voilà. Alors, on est à la page numéro 4. Non, je rigole. Oui, ça va. Alors, finalement, malgré cet envoi, malgré le fait que voilà, j'étais déterminée à vivre par la grâce, dans le sens de vivre sans savoir quel était le pas suivant, etc. Et sans les sécurités que j'avais l'habitude de mettre autour de moi, j'ai quand même vécu un premier semestre difficile. Et je pense que c'est aussi normal, prévu. Enfin, je sais que c'était prévu par le Seigneur. Je sais qu'il était là de toute façon. Vraiment, j'ai ressenti sa présence et il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été des bénédictions. Mais voilà, il y avait forcément des difficultés, ne serait-ce qu'au niveau du niveau de l'université où. Où ils ont un niveau de recherche architecturale et un niveau d'anglais demandé aux étudiants étrangers qui était très, très élevé. Après, il y a le prix de la vie qui est vraiment, vraiment très élevé. Donc, financièrement, à la fin des mois, c'était difficile au début parce que je n'avais pas de job encore. Et après, j'avais une colocation qui ne se passait pas super bien avec deux Australiennes. Bon, ce genre de choses, j'étais assez loin du campus. Mais malgré tout ça, j'ai quand même eu des bons résultats universitaires et je vivais vraiment des temps aussi dans cette église que j'ai rejoint et dans ce groupe qui était fort. Bon. Et après, il y a eu l'été, puisqu'il y a eu vous savez, comme c'est l'hémisphère sud, l'été est en hiver. Donc en novembre, on se retrouve en plein été à préparer les plages. Et là, j'ai trouvé un boulot. J'ai trouvé un job qui était vraiment une bénédiction. Parce que j'ai gardé des enfants une fois par semaine et je donnais des cours de français aussi à des dames. Et c'était vraiment des temps super. C'était drôle. Et mes parents sont aussi venus me visiter et on a voyagé ensemble pendant 3 semaines. Donc c'était vraiment super. Et après, j'ai pu déménager aussi. Donc ça a été. Il y a eu plusieurs étapes qui ont fait que enfin ça se débloquait, enfin ça coulait. C'était plus facile. Et au deuxième semestre. Il y a eu aussi vraiment un renouvellement et disons au niveau universitaire, j'ai eu la faveur de Dieu parce que à un moment je voulais prendre un des 3 cours qu'on avait là-bas dans une autre université. Parce qu'on avait, c'est un privilège qu'on a quand on est étudiant étranger et je voulais prendre un cours de journalisme. Et mon université m'a dit, alors que j'étais déjà engagée dans ce cours-là, l'université m'a dit, mais attendez, il y a une exception, c'est pour Brisbane. Super. J'avais déjà commencé, donc c'était embêtant de recommencer à zéro un autre cours, de perdre un peu tout ce que j'avais déjà fait. Et je priais, je disais, Seigneur, je sens vraiment que sur ce cours-là de journalisme, il y a un truc pour moi. Et j'y tenais, et en même temps, j'avais un peu cette crainte qui me disait, je pense que c'est l'ennemi qui me, forcément, parce que c'est de la crainte, et l'ennemi qui me disait, attention, si tu insistes pour avoir ce cours, je vais tout faire pour que tu échoues. Parce que comme ça, tu vas devoir assumer un choix qui est difficile, etc. Et puis le Seigneur me disait, mais va, enfin, va avec ton cœur. Si je t'envoie là-bas, j'ouvre les portes et t'y vas. Et voilà. Enfin, le Seigneur me demandait, t'as vraiment envie de suivre ces cours? Je disais, bah oui. Et bon, bah, il a ouvert les portes. Donc, gloire à Dieu. Et donc, j'ai pu suivre un cours de journalisme aussi. Et c'était vraiment, vraiment une bénédiction. Et finalement, à la fin du semestre, voilà, d'excellents résultats. Et j'avais pas dû forcer. Donc, c'est aussi un signe qu'à un moment, je vais lâcher prise sur vouloir faire les choses par moi-même, n'est-ce pas? Et voilà, pour revenir de manière plus générale, finalement, enfin, pas plus générale, mais plus au cœur de ce qui nous intéresse, c'est pendant cette année sur place, j'ai du coup rejoint cette église qui s'appelle Hope Church, qui est une église internationale qui a été fondée par un couple du Vietnam, et donc forcément rejoint par énormément de pays asiatiques qui sont représentés à Brisbane. Et la vision de cette église, c'est d'évangéliser, de planter d'autres églises. Ils en ont déjà beaucoup en Australie, dans le reste du monde, dont une aussi à Paris, Berlin, etc. Et finalement, j'ai vécu beaucoup de choses et je pense vraiment que le Seigneur a utilisé ce groupe dans lequel... En fait, c'est un groupe de jeunes, voilà, on appelle ça Life Group. On était à peu près 50 et c'était un des 10 sous-groupes. Donc en tout, on est 500. Voilà. Et ça fait beaucoup de gens, ça fait beaucoup d'amis sur Facebook, notamment. Et ce qui était super, c'est de voir et d'être plongé dans un fonctionnement qui n'est pas du tout comme le nôtre et d'être de un peu tout chamboulé et de se sentir voilà, forcément chamboulé. Et ça nous fait nous poser des questions et ça nous fait réaliser aussi que Dieu parle de façon très différente. Qui ne parle pas qu'à nous et qu'il a des choses vraiment pour il est en train de faire des choses dans différentes parties du monde qu'on des fois on voit pas et c'est encourageant et c'est effectivement par exemple ce qu'on est en train de voir aussi avec les jeunes au niveau des films qu'on est en train de visionner, enfin c'est se rendre compte aussi que c'est le Seigneur qui agit et ça rappelle un peu le départ de ce que je disais, que c'est le Seigneur qui fait, qui est à l'œuvre dans nos vies. Bon. Et ce que j'ai trouvé dans cette église qui était vraiment encourageant, et notamment dans ce groupe, c'est l'obéissance qu'ils ont. L'obéissance mutuelle, en fait, et cette soumission mutuelle, finalement, de fonctionner comme un corps, véritablement, et même si c'est des jeunes on a tous entre 20 et 30 ans, il y a ces relations de confiance et de soutien et d'entraide. Et il y a quelque chose qui fait que les jeunes n'ont pas envie de partir du groupe pour un oui et pour un non. Ils restent et il y a des coups de gueule, excusez-moi l'expression, il y a des choses forcément de chacun qu'on vit qui ne sont pas faciles, mais voilà, ça, on continue, on est tous dans ce mouvement et c'est quelque chose dont j'essaye de comprendre le mécanisme et de me dire, Seigneur, comment est-ce qu'on peut vivre ça aussi dans notre pays ? Et finalement, c'est encourageant parce que ça porte du fruit et qu'on voit que je dirais qu'il y a un taux d'évangélisation qui est impressionnant. Après, je sais qu'il y a dans chaque église et communauté, il y a des appels particuliers, des saisons, mais il n'empêche que on voit ce fruit et on se dit c'est encourageant de voir pourquoi il y a ce fruit et pourquoi ça fait des années qui travaillent à ça et que. Et que par exemple, les services, on était à près 400-500 personnes. Et en moyenne par semaine, il y avait une dizaine de conversions. Donc c'est quand même intéressant, c'est quand même encourageant. Et dans le live group en lui-même, j'étais encouragée par le fait qu'on puisse vraiment chacun exercer nos dons. Même si on n'avait pas de rôle de leader, etc., c'est un encouragement vraiment à participer à la vie du groupe, à ce que chacun déverse et pratique les dons que le Seigneur lui a donnés. Et c'était voilà, dans un contexte, un cadre qui sont sécurisés. Donc c'est aussi des moments intéressants. Et après, forcément, il y a... Enfin, pas forcément, mais... malgré tout, au bout de quelques mois, j'ai commencé à ressentir vraiment quelque chose de pesant dans cette église, mais qui est plus mon, pas un ressenti personnel, mais quelque chose qu'on ressent plus sur les services le dimanche. Parce qu'il faut savoir que dans cette église, étant donné qu'il y a énormément de personnes, En dehors du service du dimanche qui est vraiment consacré à l'évangélisation, pour le coup, pour beaucoup pour les appels, enfin, comment dire, c'est beaucoup le message de la croix, puisqu'il y a beaucoup de, voilà, de nouvelles conversions, de gens qui ne connaissent pas le Christ. Et donc, en dehors de ça, ils ont, voilà, il y a toutes les semaines le groupe de jeunes, les vendredis, toutes les semaines, il y a une soirée de prière et de louange. Donc, ça fait une vie d'église qui du coup, voilà, porte du fruit, puisqu'on a. Comment dire, il y a une balance qui est faite entre les services qui sont plus pour les nouveaux chrétiens et les nouveaux convertis et le reste de la vie en dehors de la, enfin, dans le reste de la semaine. Mais du coup, ouais, sur ces services du dimanche, je sentais qu'il y avait un système qui était hiérarchisé vraiment de manière un peu pyramidale et que autant on pouvait vivre nos dons dans les live groups et vivre des choses fortes dans les séminaires et autres, autant je sentais que le Saint-Esprit était un peu bon. Un peu étouffé, des fois un petit peu. Bon, voilà. Après, c'est des choses qui sont appelées à évoluer. Et donc, bon, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rejoint à ce moment-là une autre. Enfin, j'ai pas changé d'église, mais j'avais déjà visité une autre église qui est australienne, avec plutôt une cinquantaine de personnes, donc une échelle beaucoup plus petite, ou peut-être une centaine, où là, ils ont vraiment une façon de vivre leur temps avec le Seigneur qui est différente. Et où il laisse, enfin, là-bas, la présence de Dieu est vraiment tangible. Parce que dès qu'on rentre, on sent l'onction, on sent la présence, et c'est vraiment super, et ça rafraîchit. Et ce qui est intéressant, ce qui se passe, c'est que finalement, il laisse, j'ai l'impression qu'il laisse le Saint-Esprit être le président de culte. Parce que, par exemple, quand ils ont le temps de louange qui varie vraiment et qui n'est pas prévu à l'avance, le pasteur qui à un moment revient à ce moment-là, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros il laisse le Saint-Esprit faire cette transition entre le temps de louange et ce qui arrive après, et on sent qu'il y a une espèce de mouvement qui est fait dans l'esprit. Alors bon, ça vaudrait le coup de leur poser la question, de dire comment est-ce qu'ils vivent ça. Et ce que je retenais de ce pasteur-là, en particulier, qui est une femme, c'est qu'elle disait « Suivez-moi comme je suis Christ ». Ou c'était pas pour dire « Faites comme moi », juste pour faire comme moi, mais que c'était dire « soyons chacun des suiveurs de Christ, et comme ça, les autres viendront à Christ en nous suivant ». Donc voilà, j'ai en gros, à ce moment-là, comment dire, j'ai commencé à voir plusieurs choses, à vivre beaucoup de choses qui étaient des preuves que le Seigneur est en dehors des cadres, surtout, et qu'il est beaucoup plus qu'on peut imaginer l'être soi-même, et qu'en même temps, dans toutes les choses, il est équilibré. Et que finalement, ce qu'on entendait récemment à Strasbourg avec les jeunes, c'est qu'il nous appelle même à être participants de sa nature divine. Et ouais, ce que je recevais, c'est que finalement, on se dit, mais Seigneur, c'est toi qui es parfait, qui es Dieu, tu nous dis, mais soyez participants de ma nature. Et ça me dépassait tellement, je disais, mais comment, quoi faire? Et il me redisait, mais à pratiquer les œuvres bonnes, et puis à être ce que je vous appelle à être, et à vivre, à être mes enfants, tout simplement. Et ce que je recevais à ce moment-là, c'était un passage dans Philippiens 2 qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Alors, pardon, un peu avant, il est dit « Rendez ma joie parfaite ». Alors, comment rendre la joie du Seigneur parfaite? C'était en ayant justement cet esprit de corps et de se dire que le seul commandement qu'il nous donne, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Et quand son amour est parfait, on peut le recevoir complètement, on peut savoir qu'on est aimé, et forcément, on va aimer les autres aussi plus facilement, et ça va jaillir, ça va déborder de nous, donc c'est ça à quoi j'étais encouragée. Et par exemple, dans Philippiens 2, 13, il est dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Et ça, c'est un rappel du départ, c'est en disant qu'est-ce que c'est l'échec ? C'est de se dire, ben, parfois, il y a des échecs dans la vie qui ne sont pas des échecs, mais ce n'était pas le temps, par exemple, ou ce n'était pas le bon endroit pour faire... ou c'était juste un passage obligé, et c'était... et que finalement, ce que j'avais vécu comme un échec de ne pas être admise en Australie la première année, c'était... Bah oui, aux yeux du Seigneur, ce n'est pas un échec, puisque ce n'était juste pas le bon temps. Et finalement... j'ai été dans le temps qui était le meilleur. Voilà. Et et finalement, sur la fin de l'année, pour conclure, et pour faire le lien avec ce qui se passe maintenant dans cette nouvelle saison, c'est de se dire... ce que finalement j'ai vécu un peu de manière générale, c'est que là où j'avais un peu un ou deux appels, ou enfin quelques éléments des projets du Seigneur pour ma vie, où je balisais à l'idée de me dire comment est-ce que je vais faire ces choses-là, ben, le Seigneur s'est déversé sur moi. En fait, j'ai vraiment reçu beaucoup de paroles et beaucoup d'appels et beaucoup de comme s'il m'appelait à mille choses, et plus je recevais, et finalement plus je lâchais prise sur comment faire, puisque je me dis si c'est le Seigneur qui appelle, il va faire le chemin aussi. Bon, après il y a d'autres choses, mais qui finalement je trouve sont pas forcément intéressantes à partager. Après, c'est sur cette question de l'évangélisation, et qu'on est a priori tous appelés à partager notre foi, etc. Je sentais que le Seigneur disait, c'est possible que parce qu'on est et pas parce qu'on fait aussi. Et je suis encouragée justement pour cette nouvelle saison et pour les jeunes. Je me dis, c'est que finalement les jeunes sachent qui ils sont d'abord. Avant de vouloir œuvrer, et qu'à un moment il y a des saisons vraiment où je vois le Seigneur qui fait des choses, et ça c'est le point, on va dire, le dernier point et le point essentiel, c'est d'être dans le maintenant de Dieu, c'est de se dire il y a un temps qu'on vit. Moi il m'a dit arrête d'être dans le futur, arrête de stresser, de dire comment tu vas faire ça et ça, comment tu vas rentrer dans ces plans. À d'autres, il peut dire arrête d'être dans le passé, d'être mélancolique et de se dire c'était mieux avant. Il y a un maintenant à vivre, il y a des temps, il y a des on est appelé à chaque instant à être à un endroit et à faire des choses. Et ça peut se passer que quand on est dans le temps du Seigneur. Et j'étais vraiment encouragée par ça. Pour discerner les saisons, vraiment être dans son appel. Et de se dire, bah, maintenant, la force, finalement, quand on disait je te loue de toutes mes forces, tout à l'heure, le Seigneur me disait, quand tu me loues de toutes tes forces, que ta force, là où il faut l'appliquer, c'est à demeurer. Et je disais, mais demeurer, on demeure, point barre, on est là, quoi. Et en fait, on sait tous que non, le Seigneur, s'il nous appelle à demeurer dans sa paix, demeurer dans sa présence, demeurer dans sa grâce, ça prouve bien qu'on peut ne pas y demeurer. C'est pas parce qu'un jour, on emménage, que le lendemain, on ne va pas avoir tendance à retourner dehors ou sous l'abri où on était, etc. Et il me disait que le repos et le fait de demeurer, ça va aussi ensemble, c'est de se dire, c'est quand tu demeures en moi que tu es dans ce repos. Et que là où tu peux te battre de toutes tes forces, c'est pour ça. C'est pour rester dans cet équilibre. Et cette question de l'équilibre, maintenant, j'ai l'impression qu'elle concerne aussi ce qui est en train de se passer d'une manière globale, et d'une manière globale, on va dire, dans le spirituel, c'est de voir c'est comme si on était, comme si le chemin sur lequel on est, il devient un peu étroit, et que c'est très facile de tomber d'un côté ou de l'autre, soit de tout laisser tomber et de dire, je suis dépassée, soit d'être dans cet activisme et dans ces choses-là. Et finalement, pour revenir un peu sur le retour, il y a eu aussi cette étape de passer par l'Asie, que je ne connaissais pas, et je voyais vraiment encore le Seigneur ouvrir et faire des choses et faire des choses assez surprenantes. Et c'était très encourageant. Et par exemple, sur la semaine où j'étais à Hong Kong, j'ai pu assister à une conférence de Chris Vallotton. Et c'était vraiment sur un sujet où j'étais interpellée par le Seigneur. Et c'est tombé pile le dernier jour, quelques heures avant de prendre l'avion. C'était super. Et finalement, quelques semaines avant de partir, quand j'étais à Brisbane, je recevais que le Seigneur m'interpellait sur cette question de savoir si on est... Voilà, qu'est-ce que c'est la grâce et est-ce qu'on est toujours pécheur ou pas? Parce que quand certains disent « oui, on est tous pécheurs », moi je disais « ben non, on a été justifiés, donc on est juste. Alors est-ce qu'on est juste ou est-ce qu'on est pécheur ?» Et je disais « ben non, on a été justifiés. » Donc il faut aussi, et c'est important de dire les mots qui vont avec la vérité qu'il y a derrière. Et quand j'étais à Hong Kong aussi, j'ai reçu d'un ami du Live Group un livre sur le sujet. Et c'était intéressant ce que je partageais à Luc. Et voilà, et du coup, c'est vraiment aussi une réponse où le Seigneur me disait, j'ai les ressources dont tu manques. Et voilà, et puis j'ai encore vécu des choses fortes à peu près vers cette deuxième saison sur place avant de partir, notamment ma grand-mère qui avait un cancer à un moment. Qui avait un cancer. À un moment, comme forcément étant à distance, quand j'avais des coups de fil de la famille, c'est difficile de un peu, comment dire, il y a toujours cette pression de se dire, si ma grand-mère, elle est dans cet état, elle allait de mal en pis, plus ou moins, physiquement, et elle devait être réopérée. Et à un moment, je sentais le Saint-Esprit qui me poussait à prier plus spécifiquement. Je disais, est-ce que tu es en train de me préparer à l'idée qu'elle va partir? Et je disais, mais Seigneur, c'est pas juste parce que je sais qu'il y a tellement de choses qu'elle doit vivre et qu'elle doit recevoir, et notamment sa relation avec toi, qui doit être vraiment renouvelée, parce qu'elle est de culture catholique. Et finalement, le Seigneur m'a dit, mais sois comme Esther, quoi, viens et demande et prends vraiment ce que tu veux. Dans la foi. Et je disais, mais Seigneur, donne-lui du temps, au moins pour que je la revoie. Et ce qui s'est passé, c'était une guérison miraculeuse. Donc c'était un encouragement vraiment fort. Et la veille de mon départ, j'ai été de nouveau visiter cette deuxième église dont je vous ai parlé. Et j'ai reçu une parole pour une femme, quelque chose de très spécifique, et que moi, je pensais être un peu une broutille. Et puis... elle s'est mise dans tous ses états en me disant « Mais ça fait 15 ans que j'attends cette parole, c'est formidable. » Alors j'étais un peu surprise, et puis elle me disait « T'imagines, le Seigneur est quand même bon parce qu'il envoie une jeune femme de l'autre bout du monde pour me dire ça, c'est trop marrant. » Bon. Et c'était des encouragements comme ça, j'en ai finalement vécu plein. Et voilà, j'ai rien noté d'autre, mais en tout cas, j'espère que je vous ai pas attristée, vous avez des mines un peu... un peu déconfite, mais ok, très concentré. Non, mais voilà, enfin, je voulais vraiment que ce soit, un encouragement. Et ce que je reçois, c'est pour faire un mot de résumé, c'est cette paix en fait surnaturelle. Je suis là-dedans, c'est pour ça que je suis peut-être très calme. Bon. Mais de se dire que voilà, les projets, et ça je veux le dire aux jeunes, c'est les projets de Dieu pour vous, ils vont se passer dans leur temps, et soyez dans la joie, soyez toujours joyeux. Et ça vaudrait un enseignement aussi, n'est-ce pas, sur comment demeurer dans cette joie. Et je suis juste finalement atterrée de voir comment le Seigneur déverse son amour et sa grâce, et me montre sa grâce tout le temps et tout le temps et tout le temps, et que finalement, à un moment, j'ai lâché prise en disant « je peux rien faire pour, quoi. Je mérite pas ton amour, je mérite pas ta grâce. » Et quand je suis allée à la croix et que j'ai vraiment vu, c'était un temps bouleversant, parce que c'est difficile de réaliser le travail à la croix. C'est très, très difficile quand on est de nature à vouloir la mériter. Et en même temps, ce qu'on y découvre, c'est bouleversant. Donc j'invite vraiment ceux qui ont pas vu la croix et pas vu Jésus dans les yeux à le faire.